nous poursuivons avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a remis sa démission hier à Emmanuel Macron. Le chef de l'État l'a aussitôt refusé. Pourquoi ? Qu'est-ce que cela signifie ? Analyse dans un instant.
Vous entendrez aussi Michel-Édouard Leclerc, patron des supermarchés du même nom. Alors que la loi Agriculture et Alimentation doit être votée aujourd'hui, il dénonce la présence de lobbies qui ont influencé les députés pour augmenter les prix des produits alimentaires.
Le gouvernement allemand et les constructeurs d'Outre-Rhin sont parvenus à un accord cette nuit, un compromis sur la marche à suivre pour les millions d'Allemands détenteurs d'un vieux diesel. Aujourd'hui, une étude prouve que les enfants en Allemagne sont particulièrement touchés par ces émissions polluantes.
Et puis l'hommage à Charles Aznavour. Après 72 ans de carrière, 180 millions de disques vendus, près de 80 films tournés, Charles Aznavour est décédé hier à 94 ans, mais avant d'être connu et reconnu, il a été censuré, vous l'entendrez.
Frédéric Seyss consacrera justement son billet politique au chanteur. Après ce journal, Charles Aznavour et la politique. C'est ce qui s'appelle un faux départ. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a présenté hier sa démission. Une démission refusée dans la foulée par le président Emmanuel Macron. Bonjour Alexandra Duboucheron.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Gérard Collomb va donc devoir rester à son poste quelques mois de plus, Alexandra.
Oui, alors en politique tout est possible, mais ce refus d'Emmanuel Macron, annoncé par le Figaro, vous l'avez dit, confirmé par l'Élysée hier soir, repousse cette démission de 8 mois, soit après les élections européennes. C'est le délai qu'avait fixé Gérard Collomb lui-même il y a 2 semaines lorsqu'il a annoncé son souhait de se représenter à la mairie de Lyon et donc de quitter ses fonctions de ministre. Ce jour-là, il avait pris tout le monde de court. L'opposition s'est engouffrée dans la brèche, réclamant un départ au plus tôt pour ne pas laisser le bateau Beauvau sans capitaine. Et hier au Figaro, Gérard Collomb confiait ne pas vouloir déstabiliser plus longtemps son ministère. Mais ce n'est pas la seule raison de cette démission. Entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb, les relations ne sont plus au beau fixe depuis plusieurs mois déjà. Depuis l'affaire Benalla, devant la commission d'enquête parlementaire, le ministre a dû se justifier dans une affaire qu'il estimait être une affaire élyséenne. Il s'est vu comme un fusible, se retrouvant en première ligne. Et puis, dès la rentrée, il y a eu plusieurs sorties, si l'on peut dire, notamment lorsque ce macroniste de toujours dénonçait le manque d'humilité de l'exécutif.
Alors, pour Emmanuel Macron, maintenant, Alexandra, qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi a-t-il refusé la démission de Gérard Collomb ?
Hier soir, l'Élysée, dans un communiqué, a assuré que ce refus d'Emmanuel Macron était la marque d'un renouvellement de confiance du président envers son ministre de l'Intérieur, mais c'est surtout une façon de rester maître des horloges pour le chef de l'État, ne rien se faire imposer. Un ministre qui annonce lui-même sa démission et fixe le jour de son départ, ça ne se fait pas. Surtout que ce jour-là, le 18 septembre, était présenté le grand plan d'Emmanuel Macron pour la santé. Présentation éclipsée donc, on imagine la réaction du président de la République. Et puis surtout, il faut minimiser l'importance d'une telle démission après celle de Nicolas Hulot à la transition écologique. Ne pas donner le sentiment d'être lâché petit à petit par les poids lourds de la majorité.
Merci Alexandra Duboucheron pour ces précisions ce matin. Emmanuel Macron qui voit décidément des politiques lui tourner le dos, le critiquer en ce moment. Et là encore, cela a un lien avec la mairie de Lyon. Certains maires des grandes villes étaient hier soir à l'Élysée. La présidence souhaite fusionner des métropoles avec des départements, comme cela s'est fait à Lyon. Intolérable, a répondu la maire PS de Nantes et présidente de la métropole, Johanna Roland. Elle insiste-t-elle sur l'importance des territoires périurbains et ruraux en Loire-Atlantique. Pendant sa campagne, Emmanuel Macron s'était engagé à faire disparaître 25 départements français pour supprimer les doublons de compétences et surtout pour faire des économies. On apprend qu'une opération antiterroriste a été menée ce matin dans le Nord. Une opération qui vise une association à Grande-Synthe. Environ 200 policiers sont mobilisés au siège du centre Zara France et au domicile de ses principaux dirigeants. La préfecture évoque leur soutien marqué à plusieurs organisations terroristes. Un an après les états généraux de l'alimentation, les députés s'apprêtent à voter cet après-midi la loi Agriculture et Alimentation à l'Assemblée nationale. Glyphosate, bien-être animal, lutte contre le gaspillage, encadrement des promotions en supermarché, le texte est assez large. Il promettait surtout de rééquilibrer le rapport de force entre agriculteurs, industriels et grande distribution, en relevant notamment de 10% les seuils de vente à perte pour les distributeurs. Selon le patron du géant de la distribution, Michel-Édouard Leclerc, cela va augmenter de facto les prix pour plus de 3000 articles en grande surface. Il accuse ses concurrents d'avoir même demandé aux députés de planifier une hausse des prix alimentaires sur des articles qui, dit-il, ne bénéficieront pas aux agriculteurs. Michel-Édouard Leclerc.
la situation de crise de certains secteurs agricoles mérite qu'on paye un prix qui soit socialement acceptable. Ça, je pense qu'en tant que distributeur, je serais capable de le prendre sur ma marge. Mais en quoi le fait d'avoir à vendre l'eau d'Évian, le Coca-Cola ou le Nescafé plus cher va bénéficier aux agriculteurs? Il y a un mélange des genres, là, il y a un truc qui marche pas. Je vois pas en quoi celui qui vend cher rémunère mieux les agriculteurs. C'est pas parce que mon concurrent Casino ou Monoprix vend 20% plus cher qu'il rémunère plus les agriculteurs. Ça n'a pas de sens. Enfin, franchement, c'est de la naïveté. Il y a aucun mécanisme, il n'y a aucun engagement par lequel cet argent avec lequel on va pénaliser les consommateurs va se retrouver dans la poche des agriculteurs. Moi, je pense qu'on a introduit dans la loi un dispositif qui est en fait un truc de lobby, un truc qui vise à rassurer quelques industriels et quelques distributeurs qui sont un peu largués et qui voudraient que ceux qui vendent moins cher relèvent leur prix. Ça n'a rien à voir avec les problèmes agricoles aujourd'hui.
Alors, réponse du ministre de l'Agriculture Stéphane Travert hier soir. Cette loi, a-t-il dit, ne va pas augmenter les prix. Il accuse d'ailleurs Michel-Édouard Leclerc de, et ce sont ses mots, de prendre les consommateurs en otage. Il est 8h passées de 6 minutes sur France Culture. Les chefs de file de la coalition au pouvoir en Allemagne disent avoir trouvé un accord avec les principaux constructeurs automobiles. Un accord qui permettrait de réduire les émissions polluantes dans toutes les grandes villes, tout en évitant de recourir aux interdictions de circuler. Les détails doivent être présentés dans la journée. On sait déjà que les constructeurs automobiles se disent prêts à supporter la plus grande partie des coûts de modernisation pour les véhicules anciens, les véhicules diesel, réduisant ainsi les émissions polluantes. L'Allemagne, où, comme en France, les enfants sont de plus en plus exposés à la pollution de l'air, à cause du diesel notamment. C'est ce que prouve une étude aujourd'hui de l'Alliance européenne pour la santé publique. Elle reprend une enquête faite par une ONG allemande dans 6 villes outre-Rhin à Lorbaral.
L'ONG Deutsche Umwelthilfe n'a pas choisi n'importe quelle ville, mais des berceaux de l'industrie automobile allemande comme Munich et Stuttgart, ainsi que Berlin, Hambourg ou Kiel. Elle a mesuré les taux d'oxyde d'azote, un gaz issu des moteurs diesel, dans 500 rues à 2 mètres de hauteur, mais aussi à 1 mètre du sol. Et plus près du trottoir, il y avait jusqu'à 37% de polluants en plus par mètre cube d'air, une différence qui compte pour la porte-parole de l'association Dorothée Saar.
Les enfants sont plus sensibles. Ils inhalent plus fréquemment, surtout quand ils courent. Nous voulions avoir des données plus précises que celles des stations officielles de mesure de la qualité de l'air, qui ne calculent pas cette différence de concentration de polluants mauvais pour la santé en dessous de 2 mètres du sol, là où justement les enfants respirent.
L'étude a des limites, elle ne porte que sur un mois et en moyenne montre une différence de 7,5% de polluants en plus. Mais l'association aimerait poursuivre ses recherches dans d'autres villes et d'autres rues pour montrer les différences de qualité de l'air, justement au moment où l'Union européenne, elle, doit choisir de nouvelles normes de pollution pour les voitures.
La première ministre britannique annonce de nouvelles règles en matière d'immigration au Royaume-Uni, des règles qui entreront en vigueur après le Brexit et qui donneront la priorité aux travailleurs qualifiés, en supprimant la libre circulation des citoyens européens. Un système, dit Theresa May, basé sur les compétences des travailleurs et non sur leurs origines. Elle s'était engagée en juin 2017 à réduire le solde migratoire en Grande-Bretagne à moins de 100 000 personnes par an. Theresa May qui accélère donc sa communication alors que son ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson doit prendre la parole aujourd'hui lors du congrès des conservateurs à un discours très attendu. Il devrait exposer l'étendue de ses désaccords avec le gouvernement sur le Brexit. Jim Mattis est à Paris aujourd'hui mardi. Le ministre américain de la Défense, actuel ministre de la Défense, doit s'entretenir de manière informelle avec le président Emmanuel Macron. De manière plus formelle, il sera reçu par son homologue française Florence Parly. L'occasion de montrer que tout va bien entre les deux nations, entre la France et les États-Unis, sur la coopération contre le terrorisme et sur leurs positions respectives en Syrie. Nathalie Hernandez.
Florence Parly avait été reçue en grande pompe il y a un an aux États-Unis, à son tour aujourd'hui de recevoir avec les honneurs son homologue américain de la Défense. Les deux ministres se parlent régulièrement et sont au diapason selon l'entourage de Florence Parly. Jim Mattis entend d'ailleurs remercier la France et la féliciter pour ses campagnes antiterroristes menées en Afrique et au Levant. Et pour l'heure, pas question de trop lever le pied en Syrie et en Irak pour les deux pays. La coalition restera en Syrie et c'est elle qui décidera quand partir, a répliqué le Pentagone au ministre syrien des Affaires étrangères, qui les exhortait à quitter au plus vite le territoire. Car si l'organisation terroriste État islamique a été quasiment vaincue sur le terrain, une poche de résistance subsiste à l'est du pays, dans la vallée de l'Euphrate. De plus, le groupe terroriste opère encore de manière insurrectionnelle dans son ancienne capitale, Raqqa, ou dans la région de Manbij, proche de la Turquie. Selon l'agrégé d'histoire qui publie sous le nom d'Historicoblog, il s'agit d'attaques à l'explosif ou d'assassinats ciblés, comme en mars dernier à Manbij, où deux soldats, un Américain et un Britannique, ont été tués alors qu'ils étaient en opération pour débusquer un responsable de Daesh.
Le groupe État islamique défait en revanche en Irak depuis la fin d'année dernière. Aujourd'hui, le Parlement irakien va tenter d'élire un nouveau président de la République. L'élection était initialement prévue hier, mais le quorum n'avait pas été atteint.
8h10 sur France Culture, c'est la suite des matins. Avec le journal de Clara Lecoq-Réal, la Cour d'appel de Paris doit rendre aujourd'hui sa décision dans une affaire de spoliation d'un tableau de Camille Pissarro.
Oui, la cueillette du maître impressionniste, elle avait été confisquée à un amateur d'art juif sous le régime de Vichy. Ses descendants réclament la restitution de cette gouache peinte en 1887. Ce matin, c'est un récit signé Antoine Marette.
En 1995, un richissime couple d'Américains, les Toll, achète chez Christie's à New York la cueillette de Pissarro. Coût de l'opération, 800 000 $. 22 ans plus tard, il prête le tableau au musée Marmottan à Paris, qui organise une rétrospective sur le peintre. Parmi les premiers visiteurs de l'exposition, Jean-Jacques Boer. Son grand-père, Simon Boer, avait été dépossédé de sa collection de tableaux en 1943, parmi lesquels la fameuse cueillette. Il lance aussitôt une procédure contre les époux Toll, qui plaident la bonne foi. Il ne savait pas que l'œuvre était issue d'une spoliation. Mais en première instance, la décision tombe, ils doivent restituer la gouache à la famille Boer. Le tribunal de Paris s'appuie sur une ordonnance de 1945. Elle déclare la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle. L'avocat des Toll conteste le caractère imprescriptible de cette ordonnance et il affirme « on ne répare pas une injustice en créant une autre injustice ». En attendant l'arrêt de la cour d'appel, le tableau reste sous séquestre au musée d'Orsay.
Ces tableaux-là sont visibles et côte à côte pour la première fois depuis 400 ans. Les deux versions de la tour de Babel ainsi que certaines monographies représentant les saisons, des œuvres de Peter Bruegel l'Ancien. Elles sont rassemblées au musée de l'histoire de l'art à Vienne à partir d'aujourd'hui et pour 3 mois. Exposition exceptionnelle sur le maître flamand du XVIe siècle. Il rêvait de chanter jusqu'à 100 ans. La vie, l'amour, la nostalgie, le temps qui passe. Charles Aznavour est décédé hier matin à 94 ans. Ambassadeur de la chanson française dans le monde entier. Il a vendu 180 millions de disques, enregistré 1400 chansons. Charles Aznavour est l'artiste français qui a vendu le plus d'albums au monde d'ailleurs. Et pourtant, les débuts de sa carrière musicale ont été laborieux. Certaines de ses chansons ont même été censurées dans les années 50, Cécile de Kervas-Doué.
Un chanteur obscène qui vient à la télévision la chemise ouverte, un homme qui cherche le scandale. Telle est l'image qui accompagne le chanteur Charles Aznavour après-guerre. Rien ne semble plaire chez lui, ni son physique, ni sa voix jugée éraillée et trop courte, ni surtout ses mots bien trop crus pour l'époque.
Après l'amour, quand nos corps se détendent, après l'amour, quand nos souffles sont courts.
En 1955, Après l'amour par exemple, qui décrit un couple au lit, choque la radio française. Le texte est jugé trop érotique, appuyé par une musique trop langoureuse. La chanson ne passe pas le comité d'écoute et sera censurée. Même chose en 1956.
Puisque tes reins se cambrent aux nouvelles étreintes et que ta peau frémit sous un souffle nouveau.
Mais cette fois, c'est la morale qui est choquée. « Je veux te dire adieu » met en scène un mari trompé qui chante sa douleur et décrit l'adultère de sa femme. La pochette de disque porte même la mention « interdit aux moins de 16 ans ». Censurée encore quelques mois plus tard, la chanson « Moi je fais mon rond » où Charles Aznavour raconte dans un argot parisien la vie d'un proxénète qui met sa copine sur le trottoir. Par la suite, sa chanson « La Bohème » fera encore scandale, mais la censure ne frappera plus. En 1972, comme ils disent, traite d'un autre sujet tabou à l'époque, l'homosexualité, qui ne sera dépénalisée en France qu'en 1982. Après ça, le chanteur ne s'interdira plus rien. Il écrit sur l'immigration, défend les chrétiens d'Orient, fait des albums pour récolter des fonds contre le cancer, pour Haïti et bien sûr pour l'Arménie.
Dieu soignera ton sol meurtri. Pour toi.
Charles Aznavour, fils d'un couple d'Arméniens ayant fui le génocide, il a été salué hier soir. La tour Eiffel s'est drapée d'or. Les Arméniens à Erevan sont sortis bougies à la main. La météo en France métropolitaine aujourd'hui, un temps nuageux est prévu, nuageux et pluvieux au nord de la Loire, un peu plus lumineux sur le sud. Côté température, il fera ce matin 9 degrés à Besançon, 12 à Lyon, 13 degrés à Lille, Rennes, Paris, 15 à Bayonne, 20 degrés à Nice.